Décrypte, le podcast de l'actualité numérique en Afrique, avec Adil Abdelali.
Et direction Kigali au Rwanda, où le président Paul Kagame est attendu ce 17 octobre 2023 pour l'ouverture officielle de l'édition africaine du Mobile World Congress, la grande messe du mobile organisée par la GSMA et qui se poursuivra jusqu'au 19 octobre dans la capitale rwandaise. On en parle avec Max Cuvelier Giacomelli, responsable Mobile for Development à la GSMA. Alors pour commencer, pourquoi avoir choisi le Rwanda pour abriter cet événement? Est-ce que le pays est finalement aujourd'hui un modèle en Afrique en termes de développement du mobile?
Tout d'abord, merci beaucoup de me recevoir. Donc en effet, oui, ce sera notre quatrième événement à Kigali, le deuxième sous la bannière MWC Kigali. Alors pourquoi Kigali? Certes, déjà il y a des considérations pratiques avec un centre de convention qui marche très très bien, une facilité pour les visas pour beaucoup de participants. Mais en effet, le Rwanda est un bon endroit pour mettre en valeur les dernières évolutions de l'industrie et aussi pour discuter de son futur. On peut commencer par le fait qu'il y a un taux de pénétration dans le pays qui est parmi les plus forts d'Afrique, avec aussi, ce qui est très important, un réel engagement pour l'inclusion des femmes, pour l'inclusion des populations rurales dans l'économie numérique, qui pour nous est vraiment un pilier du développement du mobile en Afrique. Cet engagement est d'ailleurs très personnel de la part de la ministre des TIC elle-même, Paula Ingabire, avec laquelle on a une très très bonne relation de travail. Qu'est-ce qu'on pourrait mentionner aussi? Smart Africa, qui est un partenariat entre une trentaine de pays africains engagés pour adresser les objectifs de développement durable grâce au numérique, qui va se réunir aussi en parallèle de MWC Kigali. Donc bien sûr, ça permet de renforcer encore la présence. Et je pense que de manière générale, on pourrait aussi dire que le Rwanda est une voie qui a tendance à porter politiquement en Afrique et au-delà, donc ce qui rend l'attractivité de Kigali encore plus forte. Après, sur la question de savoir si le Rwanda est un modèle de développement du mobile en Afrique, alors sans rien retirer au mérite du Rwanda, je pense que le pays bénéficie quand même d'un contexte, en particulier de sa taille, qui limite dans certains cas un petit peu la réplicabilité de son modèle, entre guillemets, à d'autres pays du continent. Donc je serais plus tenté de parler d'un laboratoire que d'un modèle réplicable.
Et quand on parle du mobile en Afrique, le continent affiche aujourd'hui, on le constate, un retard comparé au reste du monde, notamment en ce qui concerne l'adoption de la 4G. On parle aussi d'un faible taux de connectivité mobile, d'une pénétration relativement basse des smartphones. Et à l'heure où d'autres nations, d'autres pays évoquent la 5G et pourquoi pas prochainement la 6G, comment l'Afrique doit-elle et peut-elle rattraper ce retard selon vous? Est-ce que vous pouvez nous donner aussi des chiffres clés pour le continent en 2022?
Oui, alors je vais vous proposer de mettre la 6G de côté, parce qu'elle reste aujourd'hui encore un petit peu à l'état de concept, aussi bien en Afrique, mais aussi ailleurs. Et je pense que l'idée de regarder les chiffres est assez importante, et en particulier, parce que pour comprendre la situation en Afrique et ailleurs, il faut raisonner en termes de... En tout cas, nous, on raisonne en termes d'écart à combler. C'est-à-dire qu'il y a, en Afrique comme partout, même s'ils sont plus marqués sur le continent qu'ailleurs, trois écarts qui limitent l'impact de l'Internet mobile. Il y a un écart de couverture, un écart d'usage et un écart de consommation. Alors, si je m'explique, si on commence par l'écart de couverture, ça représente les populations qui ne sont tout simplement pas couvertes par un réseau Internet mobile aujourd'hui, 3G, 4G ou 5G. Je précise d'ailleurs qu'on s'intéresse ici à l'Internet mobile, 3G au-delà. C'est vraiment l'Internet mobile qui permet une réelle inclusion numérique et des bénéfices socio-économiques qui vont avec. Donc cet écart de couverture, à l'échelle mondiale, est de 5%. Ça représente environ 400 millions de personnes. Ce qui veut aussi dire, d'ailleurs, si on regarde le côté positif, que les opérateurs mobiles ont aujourd'hui couvert 95% de la population mondiale avec un réseau d'Internet mobile. Je pense que c'est important de le noter, même si on se concentre sur les écarts et le chemin qui reste à faire. Cet écart de couverture, donc de 5% à l'échelle mondiale, il est de 15% en Afrique, selon nos derniers chiffres, soit environ 200 millions de personnes. Donc l'Afrique, si vous faites la division, l'Afrique représente moins de 20% de la population mondiale aujourd'hui, mais elle représente pourtant 50% des personnes qui ne sont pas couvertes dans le monde. 50% des personnes non couvertes par l'Internet mobile dans le monde vivent en Afrique aujourd'hui. couvrir ces populations, ça nécessite de forts investissements, ça nécessite des nouveaux modèles économiques et ça nécessite aussi des nouvelles solutions technologiques. Donc il y a ce premier écart, cet écart de couverture. Mais il existe aussi un écart plus important qui est l'écart d'usage. Qu'est-ce que c'est que l'écart d'usage? Ce sont les populations qui sont couvertes par un réseau Internet mobile, mais qui ne l'utilisent pas. Donc aujourd'hui, 15% des Africains sont concernés par l'écart de couverture, mais seulement 40% des Africains utilisent l'Internet mobile. Donc on a un écart d'usage, si vous faites la soustraction, de 45% de la population. C'est trois fois plus que l'écart de couverture. Donc si on regarde un petit peu les choses, les investissements ont été faits, mais l'usage n'est pas là. Donc pour les populations, ça veut dire que les bénéfices potentiels du digital n'arrivent tout simplement pas. Et pour les opérateurs, ça veut dire que le modèle économique est difficile à maintenir. On a la bonne nouvelle, si je peux dire, c'est qu'on a très bien identifié quelles sont les causes de cet écart d'usage. Il y en a deux en particulier qui se détachent. La première, vous l'avez mentionné, les terminaux. Le coût des terminaux en particulier reste un problème. Et la seconde, l'illettrisme digital. Alors, les opérateurs africains, avec le soutien de la GSMA dans de nombreux cas, sont très actifs dans ce domaine pour s'assurer que les smartphones deviennent plus accessibles. On a vu des initiatives comme l'IPAM de Mumtogo, lancée par Safaricom au Kenya, par exemple, qui a déjà atteint 500 000 utilisateurs, mais aussi pour s'assurer que l'illectronisme, excusez-moi, recule. Il va aussi sans dire que cet écart d'usage, du fait de ses causes, touche plus particulièrement les femmes, les populations rurales, les foyers à revenus modestes. Donc vraiment s'attaquer à l'écart d'usage, c'est aussi s'assurer de l'inclusivité d'Internet mobile. J'avais parlé d'un troisième écart, qui est l'écart de consommation. Celui-là est un petit peu plus facile à comprendre. En résumé, la majorité du trafic est réalisée aujourd'hui par une minorité d'utilisateurs. Si on prend les chiffres d'Airtel Africa sur l'ensemble de leurs opérations sur le continent, 80% du trafic data passe par la 4G. Alors que si on regarde le parc, seulement 20% des terminaux sont compatibles avec la 4G. Donc on a 20% des utilisateurs qui font 80% du trafic. Donc en résumé, un écart de couverture de 200 millions de personnes à combler pour que tout le monde ait la possibilité d'aller en ligne, mais avec un fort besoin d'investissement. Un écart d'usage, trois fois plus important, mais beaucoup plus facilement, entre guillemets, adressable. Et enfin, un écart de consommation. Si vous voulez en savoir plus, mi-octobre, à MWC Kigali, on publiera la dernière version de notre rapport avec tous les détails de ces chiffres.
Et au-delà des défis à relever et que vous avez en partie évoqués il y a un instant, quelles sont selon vous les grandes tendances à venir pour le mobile sur le continent africain?
Alors oui, tout à fait, bien sûr, il s'agit d'abord d'adresser les écarts de couverture d'usage et de consommation, dont je viens de parler. En termes de tendance, ce qu'on voit, c'est qu'on va une progression de la 3G vers la 4G, puis ensuite de la 4G vers la 5G. On imagine, non, on n'imagine pas, on a modélisé que d'ici 2030, la 5G représentera à peu près 15% du trafic sur le continent. Ça, c'est un petit peu ce à quoi s'attendre en termes de tendance. Et on a un écart, au moins un écart d'usage, qui devrait continuer doucement à se résorber, mais plus rapidement si les différentes initiatives dont j'ai parlé plus tôt continuent à se généraliser. En termes d'enjeux, je pense qu'il va y avoir pas mal de choses qui vont jouer dans les 5 années qui viennent. D'une part, parce que pour réaliser le potentiel socio-économique du numérique, il va falloir pouvoir renforcer les usages qui permettent d'améliorer la vie des Africains au quotidien, mais aussi de créer de nouvelles opportunités économiques. Il y a pas mal d'exemples, pas mal de choses qui ont été faites sur les dernières années qui sont en train de prendre de l'ampleur. Par exemple, toutes les initiatives de paiement fractionné qui permettent l'accès à, par exemple, des kits solaires ou des cuisinières individuelles à gaz, autrement non accessibles à des revenus modestes qui ne peuvent pas faire l'investissement d'une fois. L'acceptation du mobile money par les petits commerces, qui permet vraiment de fluidifier et de sécuriser l'économie, mais aussi, très important, l'inclusion de tous. Donc, les efforts qui sont faits pour s'assurer que les populations en zone rurale, les femmes, mais aussi les réfugiés, par exemple, ont accès à l'ensemble de ces services. D'autre part, je pense qu'il s'agit aussi de mettre la technologie au service de l'action climatique. Malheureusement, c'est une réalité au quotidien en Afrique et ailleurs. Donc, il y a d'une part le travail de réduction de l'empreinte carbone des réseaux, qui est un engagement fort des opérateurs eux-mêmes, mais aussi, je pense qu'on va avoir beaucoup plus de choses se développer dans le cadre de solutions d'adaptation et de résilience qui sont facilitées par le numérique. On peut penser par exemple à une assurance climat pour les petits agriculteurs, qui peut être facilité par le mobile money, ou même on voit des choses déjà plus novatrices comme des solutions de suivi et d'incitation dans le cadre d'une gestion de forestière participative, par exemple. Et encore une fois, dans ces cas-là, en particulier quand il s'agit des impacts du changement climatique, l'inclusion va être primordiale. Et peut-être un dernier point, un troisième enjeu, selon moi, assez important, qui est le rôle que doit jouer, que j'espère va jouer l'Afrique dans les grandes décisions qui se prennent dans le domaine des nouvelles technologies de manière générale. Alors bien sûr, on pense tout de suite à l'intelligence artificielle, par exemple, où l'Afrique doit jouer son rôle pour être sûre qu'elle contribue et qu'elle bénéficie du potentiel de la technologie. Les chiffres sont assez mauvais aujourd'hui. Les datasets, entre guillemets, sur lesquels s'entraîne l'intelligence artificielle sont majoritairement des datasets américains, européens, où l'Afrique est très peu représentée. Et je pense que le continent ne peut vraiment pas attendre que des Américains développent des solutions spécifiques à ses propres problèmes. Et de la même manière, je pense qu'on ne peut pas se permettre que l'Afrique ne propose pas de solutions au reste du monde qui utilise les nouvelles technologies. Et peut-être plus largement, il y a encore beaucoup de questions régulatoires aujourd'hui où l'Afrique est par défaut considérée comme suiveuse, ce qui n'est ni juste ni acceptable. On vit dans un monde interconnecté, les frontières entre les différents secteurs se brouillent, et une nouvelle régulation internationale discutée aux États-Unis sur le blanchiment d'argent, par exemple, peut avoir des conséquences directes sur la manière dont un Africain demain va pouvoir interagir avec le mobile money.
Alors justement, la dernière question concerne ce segment du mobile money. On entend ici et là que l'Afrique, eh bien, est le continent d'avenir de ce segment. Mais dans une région où la population est très, très peu bancarisée, est-ce que finalement l'avenir de la banque en Afrique est intimement lié au mobile? Ou bien est-ce un phénomène de mode qui va se dissiper tôt ou tard?
Alors oui, en effet, l'Afrique est le continent du mobile money par excellence. Elle rassemble aujourd'hui environ la moitié des utilisateurs dans le monde. Il y a un peu plus de 800 millions de comptes en Afrique, dont 200 millions de comptes qui sont actifs tous les mois. Donc je pense qu'on peut s'accorder sur le fait qu'on n'est plus dans le registre du phénomène de mode quand on atteint ce niveau de volume. Et je pense d'ailleurs que même si on regarde de là du nombre d'utilisateurs, on arrive sur des chiffres encore plus forts en termes de la part de l'Afrique, avec 2/3 du montant total des transactions dans le monde qui passent en Afrique. Donc plus de 800 milliards de dollars l'année dernière de transactions via le mobile money en Afrique. Donc la réalité aujourd'hui, c'est que le mobile money fait partie intégrante de l'écosystème financier dans beaucoup de pays, au même titre que les banques et que les fintechs. Par contre, sur le point de l'inclusion, je pense que ce que le mobile money fait mieux que les autres acteurs, toutefois, depuis le début, et je pense que c'est encore plus important aujourd'hui, c'est justement d'inclure une frange beaucoup plus large de la population dans le système financier formel. La réalité, c'est que dans beaucoup de cas, les populations non bancarisées ne sont pas la cible prioritaire des banques, d'une part, mais aussi des fintechs, qui ont tendance à se concentrer sur les clients à plus forte valeur, catégories socio-professionnelles supérieures, dans les villes, populations éduquées. Avec le mobile money, on a un service qui est accessible sur n'importe quel terminal, même sans Internet mobile. On a un maillage d'agents qui va jusque dans les zones rurales. On a une simplicité, tout au moins relative, d'utilisation par rapport à d'autres services. Et donc le mobile money propose vraiment une solution unique pour ceux qui autrement seraient exclus du système financier. Alors bien sûr, il reste quelques obstacles à surmonter. Le service est bien plus inclusif que ses concurrents, comme je viens de l'expliquer, mais l'illettrisme numérique et l'illettrisme financier en particulier continuent à être des freins d'usage et d'adoption. La concurrence, en particulier sur le haut de marché, avec les banques, avec les fintechs, est assez rude et a tendance à tester les modèles économiques des opérateurs de mobile money. Et je rajouterai enfin que la sécurité aussi, avec non seulement la multiplication des acteurs dans le système financier, mais aussi la multiplication des fraudeurs, est une priorité de plus en plus forte pour l'industrie. Mais au final, je pense que les clients sont en demande constante de nouveaux services financiers, pas uniquement du paiement, mais de l'épargne, du crédit, de l'assurance. Et dans ce cadre, le mobile money va rester, selon moi, un des vecteurs principaux du développement de l'écosystème financier en Afrique dans les années qui viennent.
Très bien. Eh bien, écoutez, nous allons conclure sur cette dernière réflexion. Max Cuvelier Giacomelli, je rappelle que vous êtes responsable Mobile for Development au sein de la GSMA. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions.